France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France consacrée ce soir au dynamisme économique et industriel des territoires, ces régions où les entrepreneurs et autres investisseurs développent leurs projets. Cela dit, pas question ce soir d'opposer Paris à la province, mais simplement de montrer quelques exemples de dynamisme économique et industriel qui tordent le cou à ceux qui pensent encore que hors Paris, point de salut. La richesse et l'avenir économique de la France se construit donc aussi, et peut-être même surtout, extramuros. On verra ce qu'en pense l'auteur d'une cinquantaine de podcasts intitulés justement Extramuros. Guillaume Pellegrin est allé à la rencontre de ces entrepreneurs qui illustrent la vitalité locale qui rayonne parfois à l'international. Il y a ceux qui ont quitté Paris avec leurs salariés, il y a ceux qui sont revenus en province dans l'entreprise familiale pour la développer, et il y a tous les autres dont nous ne parlerons pas ce soir. Bonsoir Yaël Gauze.
Bonsoir Éric, bonsoir à tous.
Avec votre prisme politique comme d'habitude, eh bien vous nous dirait comment des élus locaux se démènent pour aider justement au dynamisme de leur territoire.
Je vois la vie en Vosges, la force de la douceur dans le Maine-et-Loire. Venez vivre la Brest Life pour attirer les entreprises, les collectivités accélèrent sur le marketing territorial et plus le plein emploi s'éloigne et plus la compétition se durcit.
A tout à l'heure, Yaël, sommes-nous donc en train d'assister à bas bruit à l'inverse de l'exode rural des 19e et 20e siècles? Vous écoutez Une semaine en France, nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Éric Delvaux, le 18-20.
Avec un premier témoignage, celui d'un entrepreneur qui travaille à Florac, en Lozère. Bonsoir Julien Tufféry.
Et bonsoir.
Vous êtes PDG de l'atelier Tufféry, fabricant de jeans made in France. Voilà 125 ans que votre maison dessine, découpe et assemble des vêtements en jeans. Je précise d'ailleurs que vous avez reçu le prestigieux label Entreprise du patrimoine vivant. Vous avez adopté une démarche de slow fashion, à l'opposé donc de la fast fashion. Et expliquez-nous ce que ça veut dire précisément.
Oui, alors vous savez, on n'invente rien. Nous, on est la quatrième génération finalement de cette famille de tailleurs de jeans. On est au fin fond des Cévennes, on est en Lozère. Et si vous voulez, la slow fashion, c'est tout simplement du bon sens, c'est-à-dire d'essayer de mettre sur le marché en fait des vêtements qui vont être beaucoup plus respectueux. Je pense que je vous apprends rien si je vous dis que la mode et l'industrie textile, c'est quand même un énorme gros pollueur mondial. Donc le fait de développer ce type d'initiative comme Atelier Tufféry au fin fond de la ruralité, en fait, on arrive à développer une mode beaucoup plus responsable et beaucoup plus tournée vers l'avenir.
Et en développant votre entreprise, est-ce que vous avez envisagé à un moment de quitter les Cévennes pour vous rapprocher de Paris? Ou est-ce que c'était une ineptie de penser
ça? Alors, je ne vous cache pas qu'on y a réfléchi moins d'un quart de seconde à peu près. Et on est absolument resté dans les Cévennes parce qu'en fait, l'héritage de la marque est là. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai une anecdote qui est quand même assez intéressante. C'est qu'au fin fond de la ruralité, on fabrique le produit le plus mondialisé, puisqu'on parle de jeans. Et pourtant, on est au fin fond de Florac, on est en Lozère. Et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on envoie des jeans partout sur la planète. Et en fait, notre isolement géographique n'est plus du tout une faiblesse. Au contraire, c'est une géniale force pour nous et pour nos salariés.
Donc la mondialisation, la mondialisation de la toile haut de gamme, la toile de Nîmes, cette toile qui est devenue ultra concurrentielle, malgré la mondialisation, pas la peine de se rapprocher des grandes métropoles.
Mais non, parce qu'en plus, nous, on tisse aujourd'hui des liens avec des territoires. Pour exemple, on redynamise énormément la filière laine sur le territoire de la Lozère. On développe énormément le chanvre avec Virgo Cop sur la partie Occitanie. On bosse beaucoup avec le lin français. Et quand vous faites cette addition-là, en fait, ce sont vraiment des synergies de territoires qui servent la mode hyper responsable. Et aujourd'hui, enfin, grâce à au digital et au fait qu'on soit connecté, vous envoyez un jean à Paris depuis Florac, depuis la Lozère. Mais c'est tellement facile, en fait. Donc, ça rebat les cartes. La campagne n'est plus isolée. Et au contraire, je trouve que la campagne est un terreau entrepreneurial qui va être génial parce que les forces y sont vives, elles y sont innovantes. Et je pense qu'on est sacrément tourné vers l'avenir.
Et dans les Cévennes, comment cet atelier Tufféry contribue au tourisme du savoir-faire? C'est une forme de tourisme, ça aussi, qui se développe dans les régions françaises.
Ouais, et puis au-delà du tourisme, c'est de la super curiosité. Nous, c'est ce qu'on dit, en fait, c'est ce qu'on dit à nos clients. Ça vous dit pas de savoir, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière votre jean? Qui le fait? Est-ce que vous savez que 70% du coût de revient d'un jean, et plus généralement d'un vêtement, c'est des mains? Est-ce que c'est pas plus chouette, exactement, de venir dans les Cévennes, voir comment c'est fait, plutôt que de faire un www.gymdetrèstrèsloin.com. Enfin, je pense que vous, les consommateurs, nous, les consommateurs, on a tout intérêt à se tourner vers ces initiatives de bon sens, innovantes, et surtout qui apportent en fait de la vitalité à notre cher territoire.
Et pour terminer, en Occitanie, il y a 10 entreprises les plus prisées des touristes. Parmi les 10 entreprises les plus prisées des touristes, il y a à la première place les Salins d'Aigues-Mortes, c'est dans le Gard, 170 000 visiteurs par an, la coutellerie l'Aïeul Honoré-Durand dans l'Aveyron, les caves de Roquefort. C'est un défi pour vous de rentrer dans le haut de ce palmarès?
Ben, c'est un défi qui se fait avec beaucoup de bon sens, parce qu'en fait, la personne qui est descendue, qui a commencé par Aigues-Mortes pour les Salins, qui veut passer par l'Aveyron pour aller à Roquefort, ben, en fait, il faut un stop à Florac dans les Cévennes pour visiter les djinns. Et encore une fois, c'est un maillage qui est plein de bon sens et de sincérité, surtout.
Merci beaucoup de ce témoignage, Julien Tufféry, PDG de l'atelier Tufféry, fabricant donc de jeans made in France, fait en France, à Florac, donc, en Lozère. La vitalité industrielle des territoires. Nous allons cette fois à Marseille, à la savonnerie Fer à Cheval. C'est la plus ancienne savonnerie de Marseille. Elle est classée aux monuments historiques. Le savon de Marseille, une marque qui n'est pas déposée. Et la savonnerie du Fer à Cheval à Marseille, donc, joue la carte de l'authenticité et du savoir-faire depuis 1865. Reportage signé Guy Vanctil.
C'est le bruit de la machine qui est en train de poinçonner les briques de savon de Marseille et qui ressortent de l'autre côté.
Sur tous les continents, on fait appel à lui et partout on se plaît à vanter ses qualités.
Oui, le savon de Marseille, ça reste quand même une des emblèmes de la ville. Hein. Il y a l'OM, il y a le foot, il y a le pastis et il y a le savon. Le savon de Marseille, c'est connu dans le monde entier.
Savon de Marseille, zip.
Ouais, il y a l'OM, il y a le savon.
Savon de Marseille.
On parle de patrimoine, on parle de savoir-faire, on parle de fabriquer en France. Tout cela sont des valeurs qui traversent les frontières. Raphaël Seguin, je suis le président de la savonnerie Fer à Cheval. C'est la plus ancienne savonnerie de Marseille. C'est la seule qui est classée au monument historique.
C'est le panneau qu'on voit là à l'entrée.
Tout à fait. Donc, c'est une des dernières et c'est vraiment une des seules qui date vraiment du 19e, hein, donc de 1856, la date de création de ce bâtiment.
Il y a un siècle, il y avait une centaine de savonneries à Marseille.
Et oui, c'était vraiment une des industries principales de la ville. Hein. Ça a créé des fortunes à Marseille. Hein. Beaucoup des maisons qu'on voit sur la corniche étaient des maisons de savonniers. C'est vraiment au 18e, 19e que l'âge d'or du savon Marseille s'est déroulé. On a repris en 2013 la société qui était en redressement judiciaire et on trouvait impensable qu'elle coule. Donc on est venu avec un plan d'action de vraiment remettre en avant ce savoir-faire et l'histoire de cette marque.
Allez. Donc bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Daniel et je vais être votre guide pour cette visite.
Bonjour, c'est Patrick.
Patrick et
Odette.
Je voulais faire visiter à ma compagne le site, quoi.
Ah, voilà. Ça, je vais voir les bons produits savon de Marseille, oui.
On est que tous les trois, je crois, pour la visite aujourd'hui.
Voilà, voilà, ça fait VIP.
VIP, ouais.
Donc nous allons commencer notre visite par la salle des chaudrons. Nous irons ensuite dans l'atelier de moulage. Donc aujourd'hui, Marseille et sa région ne comptent plus que 4 savonneries fabriquant le véritable savon de Marseille cuit au chaudron. Il y a 4 ingrédients en tout.
La soude.
Très bien, la lessive de soude. Ensuite,
l'huile.
Les huiles végétales, du sel de Camargue et de l'eau. Donc seulement 4 ingrédients, sans parfum, sans colorant, sans adjonction de produits chimiques. Et malheureusement, beaucoup de savons sont vendus sous l'étiquette savon de Marseille alors qu'ils n'en sont pas.
Tous les marchés ici dans la Provence, ben on voit que ça. On voit que
et ça. Oui, mais comme la marque, l'appellation n'est pas protégée, n'importe qui peut l'estampiller sur son savon.
Parce qu'on voit des savons, et c'est que, comme vous dites, ça trompe les clients. Ouais. Marqué Marseille, Marseillais, Marseillais. Ouais, et même ils ont fait la publicité à la télévision de savon liquide marseillais.
Depuis 40 ans, le petit Marseillais qui sent bon la Provence.
Petit Marseillais, oui,
petit
voilà.
Marseillais, il n'est pas du tout Marseillais. Hein, voilà. Je crois que c'est Johnson et Johnson, ça appartient à un groupe américain.
Des multinationales. professionnels qui choisissent d'endormir les gens. Quoi.
Et donc, nous avons déposé une marque collective, un logo qui garantit aux consommateurs qu'il achète un véritable savon de Marseille fabriqué dans la région marseillaise. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à côté dans l'atelier de moulage.
Ah, et on rentre dans un grand hangar après les cuves. Là, c'est le stock.
Ça sent bon.
Ça sent bon, hein?
Ah oui, ça sent bon.
Ah oui, il y a plein de grosses et vieilles machines, là. Impressionnantes.
Ouais. Donc, la pâte sèche est projetée sur les parois du cylindre. Ces morceaux de savon vont ensuite passer dans la boudineuse. C'est la machine avec le hublot ouvert qui va les broyer. Deux grosses vis sans fin vont hautement compresser la pâte de savon pour définir la forme que l'on veut donner au savon qui n'est pas encore moulé, puis coupé à la guillotine.
Et là, c'est impressionnant parce qu'on voit, c'est vraiment comme une poutre de savon de Marseille qui sort de l'extrudeuse.
C'est ça.
L'opératrice, elle fait marcher la machine et on voit la guillotine qui se monte et qui descend et qui tranche des gros pavés de savon de Marseille.
Ouais, ça, c'est pour faire des cubes de 300 grammes.
Ça se coupe comme du beurre.
Et on voit c'est rigolo de voir ces petits savons de Marseille là qui sont sur leur tapis roulant et qui continuent à avancer, là, qui passent devant nous.
On voit une machine qui met les empreintes sur le savon.
Il a écrit quoi là?
Savon de Marseille. Oh, sur toutes les faces. Fabriqué à Marseille. Hein.
Un de vos chevaux de bataille, c'est aussi l'export. Pour jouer sur cette même image marseillaise, made in France.
Tout à fait. Un quart de notre chiffre d'affaires réalisé à l'export. Donc la Chine et Taïwan sont nos deux plus gros clients.
Alors la qualité made in France, ça j'imagine que ça doit pouvoir se vendre aux États-Unis.
Bien sûr, bien sûr.
Si ce n'était Monsieur Trump et ses tarifs.
Oui, oui.
Tariff, 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 I love tariff.
Écoutez, pour l'instant ils sont en place et on a été impacté dans le dernier stock qu'on a envoyé récemment. Après voilà, on voit que ça bouge toutes les semaines, hein, donc il faut juste prendre son mal en patience et avoir les reins solides, ouais, tout à fait. Et donc année après année, un chiffre d'affaires qui devait être à 40 000 euros en 2015 est devenu 4 millions d'euros en 2024.
Ouais, et si Procter & Gamble vient vous racheter
Il faudrait qu'ils sortent leur portefeuille parce qu'on n'est pas prêt à vendre pour n'importe quoi.
Voilà donc pour ce reportage à Marseille, à la savonnerie Fer à Cheval, reportage signé Guy Anctil. Et à côté de Marseille, Aix-en-Provence, autre exemple de la vitalité des territoires. Bonsoir Anaïs Préto.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice et dirigeante de Live Mentor à Aix-en-Provence, donc Live Mentor, spécialiste de l'accompagnement 100% en ligne des entrepreneurs. Pour vous, quitter Paris était devenu une évidence pendant le premier confinement, durant la pandémie Covid. Quelle révélation avez-vous eue à l'époque ?
Alors à vrai dire, c'était un projet qu'on avait depuis un petit moment, puisque moi je suis née en Franche-Comté, donc pas du tout à Paris, donc je connaissais l'avantage des territoires et notamment de l'accès à la nature facilité, n'est-ce pas ? Simplement, dans le monde pré-Covid, tout le monde nous disait, à commencer par nos investisseurs, que ça allait signer la mort de la boîte de partir de Paris, donc ce projet était resté dans les cartons. Mais le Covid a un petit peu rebattu les cartes, puisqu'on a commencé à avoir nos collaborateurs qui nous disaient aussi que eux voulaient quitter Paris. Donc on s'est dit c'est le moment de saisir cette opportunité et donc on a en un mois profité du Covid pour déménager une partie de la structure à Aix-en-Provence.
Et à l'époque, parmi la quarantaine de collaborateurs parisiens, combien vous ont suivi à Aix-en-Provence ?
25.
Ah oui, tout de même.
25 et aujourd'hui on a recruté un peu plus d'une centaine de personnes en local. Avec aujourd'hui un bureau qui, de façon permanente, est d'à peu près 60 personnes. Donc ça a plutôt bien grandi.
Avec une équipe de souvent moins de 30 ans. Et la question des salaires, hein, les salaires parisiens étant censés être plus élevés qu'en région, est-ce que le montant des salaires a été une question pour vos collaborateurs qui ont quitté Paris pour venir à Aix-en-Provence ?
Alors pour nous, c'était plutôt un avantage justement parce que une partie de la réflexion était de se dire mais c'est complètement bête parce que on a des collaborateurs qui pourraient travailler d'où on veut puisqu'on officie surtout en ligne et pourtant on restait à Paris avec un pouvoir d'achat ou un pouvoir de vivre qui est limité comme on le connaît et ça a été plutôt un argument de dire ben on garde les mêmes salaires et on déménage dans une région où le pouvoir de vivre sera meilleur et ça a été un vrai argument pour les salariés qui se sont retrouvés avec un accès au logement facilité, un accès aussi à différents styles de vie facilité. Ils peuvent choisir entre habiter en ville à Marseille, habiter dans une ville un petit peu moindre à Aix ou habiter carrément à la campagne, au bord de la mer ou dans le parti plus vert du Luberon. Je fais un peu l'office du tourisme de la région PACA, mais c'est vrai, c'est un des gros arguments.
Et vous avez donc quitté Paris pour aller créer des emplois à Aix-en-Provence. Quel soutien avez-vous eu des collectivités locales et de la région en particulier ?
Alors, on a eu la chance d'avoir eu beaucoup de presse lors de ce déménagement, parce qu'a priori, tout le monde était choqué qu'une entreprise puisse déménager de Paris à Aix, qui nous choquait plutôt. Et on a eu la chance donc d'être repéré par la région, et ça nous a permis d'avoir accès notamment à tout un service pour identifier des logements pour nos salariés qui déménageaient, à identifier des places de crèche, à être aussi inséré dans des clubs d'entrepreneurs locaux pour pouvoir se constituer un réseau. Donc, on a vraiment été... Enfin, moi, j'ai été très agréablement surprise de voir ce soutien, même pour une entreprise qui restait, en tout cas, à l'époque, relativement modeste.
On pourrait penser qu'il suffit finalement d'un lien Internet, comme vous le dites, pour aller travailler en nomade. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
Alors pardon, j'ai eu un petit grésillement sur la ligne, j'ai pas entendu le début de la question, je suis désolée.
Est-ce que le travail nomade est aussi simple qu'une prise Internet ? Peut-être pas, non ?
Alors, nous on travaille pas en nomade du tout.
J'ai bien compris, mais c'est un peu le thème aussi ce soir.
Un bureau sur place. Ouais, alors est-ce que c'est aussi simple ? Je pense que non, c'est un petit peu plus compliqué. C'est essentiel de regarder l'écosystème qu'on a autour. Et nous, notamment, lorsque l'on a choisi l'implantation, on a fait attention à avoir donc une région dans laquelle suffisamment de start-up étaient implantées afin de pouvoir déjà bénéficier d'un bassin d'emploi autour, de potentiels partenaires, pour ne pas se retrouver non plus tout seul, ce qui aurait été une prise de risque dans un premier déménagement.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Anaïs Préto, fondatrice et dirigeante de Live Mentor, à Aix-en-Provence donc. Live Mentor, la spécialiste, la boîte spécialiste de l'accompagnement 100% en ligne des entrepreneurs. La vitalité économique des industriels dans les territoires, on va continuer d'en parler. Une semaine en France est réalisée par Juliette Gou, Frédéric Barrère à la rédaction en chef, et merci à Joachim Taïeb et Ryan Saïbi qui m'ont aidé à préparer ce 18-20. Billy Halley, avec ce nouveau titre intitulé The Dinner, c'est le choix musical de Djoubaka. France Inter, il est 18h37.
France Inter, Le 18-20.
Une semaine en France consacrée ce soir à la vitalité économique et industrielle des territoires. Est-il besoin de rappeler que Paris n'est pas indispensable à l'épanouissement entrepreneurial ? Et pour illustrer mon propos, je renvoie au podcast intitulé « Extramuros », devenu également un livre que l'on vous doit. Guillaume Pellegrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président fondateur de Tivoli Capital et Newton Offices. Est-ce que vous avez toujours eu à l'esprit qu'une autre façon d'entreprendre était possible en France?
Tout à fait. C'est lié à mon parcours. Né, entrepreneur né à Marseille, et on fait ses études et le début de sa carrière à Paris. Et on a toujours constaté, si on ose le dire, un peu de condescendance parfois envers ces régions, pour ne pas dire de mépris. Et il y avait une forme d'injustice que je ressentais étant retourné à Marseille pour investir avec Tivoli Capital et puis pour créer ces immeubles de bureaux partout en France avec Newton Offices. Que de se dire, mais en fait, c'est quoi cette économie extramuros? C'est en fait plus de 80% des Français. C'est, si on regarde les chiffres encore, 69% de la richesse nationale. Et c'est en fait 98% du territoire. Mmh. Voilà. Et j'avais envie de casser ces images d'Épinal. Comme le disait Julien tout à l'heure, on pense à Roquefort, on pense peut-être aussi au nénuphar de Giverny, à la Provence et ses lavandes. Et en fait, ce sont des territoires très très dynamiques d'un point de vue économique.
Parlez-nous peut-être de ce mépris de classe, effectivement. Est-ce que vous avez fait HEC, vous avez travaillé dans quelques boîtes aussi. Est-ce qu'on a senti, vous avez senti ce mépris de classe des entrepreneurs parisiens envers leurs homologues en région?
C'est pas forcément volontaire, mais au moment de la Startup Nation et de cette jolie French Tech, quand on écoutait des podcasts, en tout cas moi et puis ou d'autres amis ou mes collègues de Newton Offices, on se disait, mais mince, en fait, on parle beaucoup de Paris, en fait. Et quand on reprend ces trois chiffres que je viens d'évoquer, on se dit, il y a une forme d'injustice. Et plutôt que d'être dans l'indignation un peu stérile, eh ben, en fait, on a décidé de montrer la vitalité des territoires, de donner la parole à ceux qui sont plus silencieux, ceux qui décident d'entreprendre là où ils sont nés, et d'avoir peut-être une vision un peu plus long terme de leur capitale.
Et ça a donné 50 épisodes de ce podcast Extramuros. Qu'est-ce qui vous a frappé en allant tendre le micro à ces entrepreneurs qui donnent du dynamisme au territoire?
Très admiratif de plusieurs histoires familiales qui sont là depuis plusieurs générations et qui pourtant investissent et innovent encore comme des start-up. On peut citer par exemple Roberté à Grasse, qui a donc cette spécialisation autour de la parfumerie et qui est avec un réseau mondial de fournisseurs d'essence. On peut citer la famille Perrin, qui est, je crois, la 9e génération, Charles que j'ai interviewé, qui fait un des plus grands vins au monde, Beaucastel, et qui innove en s'associant avec une petite star locale qui s'appelle Brad Pitt et qui fait le rosé Miraval. Et on en a pas mal comme ça, des histoires d'ancrage très fort et pourtant qui ont des racines fortes et également des ailes.
Et au passage, est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question que vous posez dans le livre, hein? Pourquoi les forces entrepreneuriales sont-elles si souvent reléguées dans l'ombre des capitales? Pourquoi?
C'est un phénomène probablement, d'abord il y avait le Paris et le désert français, puis peut-être qu'on se dit aujourd'hui il y a Paris, la métropole et le désert français, et en fait je pense qu'on se trompe. Je pense qu'il y a une vitalité incroyable dans les territoires, on a besoin de réindustrialiser notre pays, donc on a besoin de foncier, on a besoin de talent, on a besoin de financement dans ces endroits-là, et ce sont ces belles histoires de TI qui sont bien souvent dans des territoires plus ruraux, qui arrivent depuis plusieurs générations à former des salariés sur place, avoir cette vision de long terme, de transmission des savoirs et puis d'ancrage de familles qui, en fait, n'ont pas vraiment envie de quitter leur région, et pas uniquement les régions qui sont sous le soleil, bénies des dieux, mais aussi, on parlait tout à l'heure du Nord, et bien il y a de superbes histoires. J'ai interviewé le groupe Sarbacane, le groupe Positive également, et d'autres entreprises qui sont fiers de leurs racines et fiers d'innover sur place.
La vitalité des territoires, donc mise en exergue dans ces 50 podcast. Pour autant, vous ne contestez pas la centralisation de la France?
Elle est évidente, on ne va pas revenir sur des siècles d'histoire française, et puis il n'est pas question d'opposer l'un et l'autre. En revanche, il était question de rééquilibrer, de donner à voir cette vitalité, ce dynamisme. On a des champions français qui naissent dans les régions et qui arrivent à conquérir l'international. Et inversement, on a vu aussi, j'ai fait un podcast avec Microsoft ou encore avec Salesforce, ces géants mondiaux américains qui ont besoin aussi d'être dans les territoires et qui l'ont compris parce qu'il faut être au plus près des clients, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait des entreprises qui marchaient très bien à cet endroit-là.
Est-ce que c'est encore marginal ou est-ce que ça devient la norme ou est-ce que ça devient normal, peut-être depuis la séquence Covid, de quitter Paris comme ça pour aller s'installer et avoir un vrai projet industriel, économique en région ?
On a vu un vrai mouvement, en effet, après le Covid, parce qu'il y a eu cette prise de conscience d'un besoin de qualité de vie. Et c'est là que Extramuros vient essayer de casser des clichés et casser des idées reçues. C'est pas parce qu'on est en région, et ça a été dit par vos invités, qu'on peut pas lever de l'argent. Et on peut l'illustrer avec l'épopée gestion, notamment un épisode que je vous recommande. C'est pas parce qu'on est en région qu'on peut pas recruter des talents. Voilà, les diplômés, souvent, bah, j'en suis l'illustration, étaient des provinciaux à Paris. En étant dans un bassin de vie très agréable, on arrive à fidéliser, on a moins de concurrence aussi pour recruter, on arrive à trouver des capitaux et donc on arrive à développer des entreprises sur le long terme. Et je le répète, qui n'ont pourtant pas de moindres ambitions, y compris à l'international.
Vous évoquiez à l'instant quelques clichés, des idées reçues de la part de quelques investisseurs et autres entrepreneurs. Diriez-vous que c'est un enseignement à HEC, par exemple, un peu stéréotypé ?
Non, HEC, pour le coup, ouvre vraiment sur toutes les problématiques et je ne ferai pas du tout le procès des grandes écoles en général, d'ailleurs. Mmh. Je trouve que ça forme des gens plutôt ouverts sur le monde et on voit beaucoup d'entrepreneurs et de plus en plus s'en sortir et oser d'ailleurs des carrières nouvelles. C'est peut-être encore plus l'apanage des nouvelles générations. Il y a ce mouvement qui doit profiter à ces territoires et en plus je compléterai en disant que c'est l'avenir et ça a été évoqué par Julien Tuféry au début. On a un sujet écologique quand même qui est devant nous de façon plus globale et le fait d'être local. Et là, c'est bien illustré par les jeans Tuféry, mais j'ai fait un épisode aussi avec d'autres jeans, le 1083. Faire local, réindustrialiser en local, former en local.
Faire des marchés courts si possible.
C'est évidemment une réponse à ces enjeux écologiques qui sont devant nous.
Guillaume Pellegrin, vous restez avec nous, on a encore quelques questions à vous poser. Le temps de me tourner vers Yaël Gauz pour son prisme politique. On va voir avec vous, Yaël, que derrière les bonnes nouvelles économiques plutôt rares en ce moment, il y a des élus qui mouille le maillot.
Et vous n'avez pas pu passer à côté lundi dernier, Emmanuel Macron et son 8e sommet Choose France, avec un nouveau record, 20 milliards d'euros de projets annoncés sous les ors du château de Versailles. Au-delà de l'opération de communication, un vrai levier pour certains territoires, notamment dans la Meuse, à Ligny-en-Barrois, où l'allemand Daimler va encore agrandir son usine de bus électriques.
Vous le savez, chaque année, depuis 8 ans, on a mis en place ce qu'on appelle Choose France. Et cette année, c'est pourquoi je suis là, c'est 92 millions d'euros et 600 emplois qui sont annoncés. Ce qui veut dire que sur ce site qui a déjà plus de 1200 emplois, l'augmentation va être absolument considérable. Et ça se fait pas par hasard.
Emmanuel Macron, au micro de Jérôme Val, rien n'arrive par hasard. Pour fidéliser Daimler, les élus locaux n'ont pas chômé. D'ailleurs, le maire de Ligny, Jean-Michel Guyot, 73 ans, dont 32 passés comme cadre dans l'entreprise, a joué le rôle de facilitateur. C'est ça la coulisse. En répondant au plus vite à la demande d'hectares supplémentaires, il a fallu vendre le stade de Ligny, déplacer des gens du voyage, revoir le plan de circulation des voies ferrées. Il faut maintenant fournir plus de logements et réfléchir à l'implantation d'un hôtel sur la commune.
Vous êtes en train de nous dire que l'attractivité d'un territoire dépend pour beaucoup de la motivation des élus locaux.
Ah bah oui, il y a bien sûr la géographie qui compte, la proximité d'une autoroute, d'une gare, le réseau de fibre optique, les aides, les subventions. Mais ça tient d'abord à la capacité du maire à prendre des risques pour aménager, et on y revient toujours, à proposer du foncier, comme l'explique l'ancien maire de Montreux-Fautionne, en Seine-et-Marne, Yves Gégaud, qui a fait sortir de terre deux zones d'activité, une commerciale et l'autre industrielle.
Ça veut dire prendre des risques, c'est pas l'État qui les prend à votre place. Même quelquefois, l'État vous contraint avec des réglementations. On parle beaucoup de la loi zéro artificialisation nette, là, la fameuse loi ZAN qui vous interdit de mobiliser du foncier. Et pourtant, s'il n'y avait pas des maires qui anticipaient ou des présidents de collectivités qui anticipaient, eh bien, toutes les opérations Choose France et autres ne fonctionneraient pas.
Et puis Yaël, il y a aussi le faire savoir pour l'attractivité. Faire savoir, c'est important.
On appelle ça le marketing territorial. Ouais. À l'automne dernier, le conseil départemental du Maine-et-Loire, je prends cet exemple, a consacré 62 000 euros au renouvellement de sa marque et de son image.
Vous nous avez demandé de la douceur de vivre. Pour vous, vos parents, vos enfants et tous ceux qui vont suivre. L'Anjou, la force de la douceur.
Voilà, il faut dire Anjou, du nom de la province, plutôt que le trop administratif Maine-et-Loire. L'Anjou et son poète, celui de la douceur angevine, Joachim Dubellay, à qui on associe en oxymore le mot force, force de la douceur, pour incarner la Loire, les success stories de Thalès à Cholet, d'Athos à Angers, dont le maire est un ancien ministre, proche d'Édouard Philippe, Christophe Béchu, qui reconnaît qu'il y a compétition entre territoires aujourd'hui, une compétition de plus en plus rude en raison de la démographie.
Ça l'est par la force des choses, et je vais même dire que ça se renforce légèrement, même si c'est pas un sujet dont on parle, parce que dans le cadre de l'essoufflement de la démographie qu'on connaît, on ne gagne plus spontanément de la population. Pour gagner de la population, il faut être capable de faire venir des gens qui sont pas présents sur le territoire. C'est presque comme un championnat. Vous avez les très grandes métropoles pour certaines catégories d'entreprises, pour des sièges d'entreprises, pour des choses de ce type. Vous avez les villes moyennes qui, en ce moment, ont vraiment le vent en poupe. Puis vous avez, y compris en ruralité, des territoires qui tirent mieux leur épingle du jeu grâce à leur restauration de patrimoine, grâce aussi à la promesse parfois d'une certaine discrétion ou d'une absence justement de trop de touristes pendant une partie de l'année.
Oui, un championnat d'attractivité territoriale hein, hors de Paris. Angers qui voit sa population augmenter de 1000 habitants par an en moyenne depuis 10 ans, c'est la quadrature du cercle, hein, car une ville qui régresse en population, c'est autant de recettes en moins et de charges en plus pour financer les équipements. Ambassadeurs de leur territoire, les élus n'ont pourtant pas de baguette magique, je terminerai là-dessus. La course à l'attractivité ne peut pas tout quand l'industrie se remet à tousser. 119 fermetures de sites l'an dernier pour seulement 114 ouvertures, solde négatif.
Merci Yael Gauze. Guillaume Pellegrin, je rappelle que vous êtes le président fondateur de Tivoli Capital et de Newton Offices. Cette compétitivité des territoires, vous l'avez pointé du doigt, vous l'avez remarqué ? Pour attirer,
absolument.
Pour l'attractivité.
Et on voit que les mairies ou les organismes de développement économique redoublent d'inventivité pour attirer. Et j'ai remarqué que l'un des maires qui a été cité... En fait, je suis assez admiratif, je pense qu'il faut du courage pour faire attirer les entreprises, parfois aller à contre-courant et...
Je pense que c'est Jean-Michel Guyot hein, qui a travaillé donc pour Daimler pendant 32 ans et qui du coup est la bonne interface pour attirer les investissements du côté allemand.
Et ça passera, dites-vous, dans votre livre Extramuros, extrait de votre podcast, ça passera par des entreprises de taille intermédiaire.
Tout à fait. Ce sont ces ETI qu'on a un peu perdu depuis le début des années 80. On a perdu le rythme par rapport à l'Allemagne et à l'Italie. Et ce sont ces ETI qui pourtant arrivent à rester longtemps dans les territoires plus ruraux, à former, à reformer, à se mettre au service en fait de leur territoire, de leur écosystème, parfois même en ayant des passerelles avec les universités ou les écoles locales. Et il nous en manque en France, et c'est grâce à elles qu'on va pouvoir réindustrialiser ce pays et figer de l'emploi et continuer à innover, continuer à gagner des marchés à l'international.
Et vous citez l'exemple allemand, cela dit, on aura noté que les Länders favorisent sûrement, avec leurs gouvernements locaux, leurs assemblées locales et même leurs constitutions locales, favorisent sûrement ce développement des entreprises locales. Merci beaucoup Guillaume Pellegrin, et donc je renvoie à votre podcast intitulé Extramuros et au livre qui en découle, Extramuros, les plus belles réussites d'entreprises en région, paru avec Newton Offices.
Merci.
Une semaine en France, avec plaisir. Ça continue avec l'actualité d'ici et d'ailleurs dans un instant, l'actualité en région. La région devenue un peu comme un nouveau western.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue, poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la lutte, il lutte propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Ils souhaitent des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Kubrick et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moins dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western.
MC Solar et son nouveau western. La suite d'une semaine en France. À la technique ce soir, Philippe Duclos, Thomas Allard et Frédéric Kiefer.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
18h53, l'actualité d'ici et d'ailleurs à présent, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Armorique, ICI Occitanie, ICI Pays de Savoie, Théo Beaucher, Sandrine Morin et Justine Leblon. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Théo Beaucher, on va commencer par vous. Théo Beaucher, bien sûr, Théo Beaucher à Radio France. Du Morbihan jusqu'à la Loire-Atlantique, un projet d'exploration minière inquiète les populations locales.
Oui, cela concerne une diagonale de 20 communes où une entreprise appelée Braise Ressources attend d'ici l'été un permis exclusif de recherche pour sonder le sol. L'espoir de cette start-up, c'est de trouver dans le massif armoricain des métaux rares comme de l'or ou du lithium, très utiles pour beaucoup d'objets de notre quotidien. Ils sont aussi un enjeu d'indépendance énergétique de l'Europe face à la Chine, par exemple. Mais sur les 20 communes bretonnes, 16 se sont prononcées contre ce projet, même si ce n'est que consultatif. Et un collectif s'est monté pour informer les habitants et surtout les encourager à refuser que Braise Ressources intervienne sur leur terrain.
Oui, parce que les opposants ont peur de mettre le doigt dans un engrenage, Théo.
Oui, clairement, ils ont peur de voir leur campagne devenir une mine à ciel ouvert, avec toutes ses répercussions sur la ressource en eau, sur le trafic de poids lourds. Alors Braise Ressources veut rassurer, ce genre de recherche peu intrusive donne rarement lieu à de l'exploitation minière ensuite, mais les opposants n'y croient pas. Pour eux, la start-up filiale d'un groupe canadien ne vient pas dans cette partie de la Bretagne par hasard. Ils disent qu'elle va forcément trouver quelque chose, parce qu'il y a eu de l'exploitation minière par le passé. L'autorité environnementale a quand même émis un avis favorable aux recherches, à condition qu'elles se fassent loin des habitations ou des points de captage d'eau.
Théo Beaucher, ici Armorique. Dans le sud du Tarn, à présent, Sandrine Morin, voici un dispositif anti-rêve mis en place par les mairies pour empêcher donc les teufeurs de venir s'installer.
Oui, cette saison, hein. Comme les asperges et les fraises dans le sud-ouest, le printemps, c'est aussi le retour des rêves. Ces fêtes illégales qui réunissent des centaines, voire des milliers de personnes au son de la musique techno. Il y en a eu une très grosse dans le Lot il y a 10 jours. Plus de 10 000 personnes décomptées près de Rocamadour. Et puis dans le Tarn, et aussi un département très prisé des rêveurs, dans le sud notamment, entre Montpellier et Toulouse. Ces zones très rurales sont des lieux privilégiés pour venir faire la fête, à tel point que des maires ont mis en place une sorte de dispositif anti-rêve avec un réseau d'habitants mobilisés. Et en une demi-heure, ils empêchent les fêtards de s'installer avec de gros blocs de béton qui barrent les routes. Chacun met des blocs sur la voie dont il a la responsabilité, raconte le maire de Murat-sur-Vèbre. Des photos circulent dès qu'une camionnette est repérée en train de tourner. Pour que ça marche, il faut que les pompiers et la gendarmerie soient dans la boucle pour s'assurer qu'ils puissent aussi ouvrir ces voies si besoin. Plusieurs rêves ont ainsi été évités. Mais d'autre part, le week-end passé, 3 fêtes se sont installées dans les villages environnants. Malgré des interdictions préfectorales et malgré aussi les 350 PV distribués pour participation à un rassemblement musical illicite.
Sandrine Morin, ici Occitanie. En Savoie, Justine Leblond, le lycée de Moutier est en train de recruter les futurs élèves de sa section montagne. Eh bien, ça passe par un concours très, très sportif, hein.
Oui, c'est une spécificité de nos territoires ici en Pays de Savoie, la montagne. Le lycée de Moutier propose une section unique pour former des élèves au concours de guide de montagne. Et ça commence dès la seconde et jusqu'au bac. Ils font régulièrement des stages immersifs en altitude. Les recrutements se font en ce moment. Hier, une centaine de collégiens, des jeunes de 14-15 ans, sont venus passer des tests très sportifs, comme vous le disiez. Une marche de 2h30 avec, tenez-vous bien, plus de 1000 mètres de dénivelé et 8 kilos sur le dos. Une fois arrivés en haut, plusieurs épreuves les attendaient, de l'escalade, un passage sur une falaise, de la descente sur pierrier. Tout ça avant de passer un entretien devant un jury, une manière de voir qu'ils sont vraiment, disent les responsables de la section. Il faut dire que le choix est rude. Sur 99 candidats, seuls 22 sont retenus. Et beaucoup viennent de loin pour tenter leur chance. Orléans, Nîmes et même Barcelone. Je vous invite à découvrir ce reportage en images sur les réseaux sociaux et le site d'ici Pays de Savoie.
Eh bien, nous irons jeter un œil et une oreille, effectivement. Merci beaucoup, Justine Leblond. Merci à tous les trois. L'actualité d'ici, d'ailleurs, avec les radios du réseau ici. À suivre, le journal de 19h d'Hélène Philly. Et puis à 19h20, ce sera la suite de notre journée spéciale France Inter. Explore l'univers, j'attends vos questions. Le téléphone sonne, va sonner jusqu'à 20h, 01 45 24 7000.